Les mains homicides par Thomas Bjork. Un soir de décembre, à 6 heures, M. Wybrow rentrait chez lui par les rues monotones de l'East End londonien. Il avait quitté l'avenue bruyante où le tram l'avait déposé au retour de son travail quotidien. Et il allait maintenant à travers des rues pauvres et tranquilles. C'était une nuit brumeuse et froide que des réverbères de plus en plus espacés ne perçaient que faiblement. Il marchait lentement, la tête baissée. Il avait l'air soucieux. Mais il n'avait pas de motif pressant de l'être. Il marchait lentement, parce qu'il avait été toute la journée sur ses jambes, et il se demandait si la bourgeoise lui aurait préparé des harengs ou du haddock pour son dîner, et lequel des deux il aimerait mieux ce soir-là. Mais M. Wybrow ne devait pas dîner ce soir-là, ni aucun autre soir. M. Wybrow allait mourir. À quelque distance de là, un autre homme marchait, un homme comme un autre, du moins il en avait l'air. Mais cet homme avait en lui quelque chose qui lui avait fait décider que M. Wybrow ne mangeait plus jamais de hareng, ni de haddock. Non que M. Wybrow l'ait blessé, non plus qu'il le haït. À la vérité, il ne le connaissait pas, sinon comme une silhouette familière. Ainsi, cet homme avait choisi M. Wybrow comme il vous aurait choisi ou moi, si nous avions été dans son champ d'observation quotidienne. Il en frottait déjà d'aise ses grandes mains blanches. Pourtant, il n'était pas cet homme foncièrement mauvais. Il passait pour un homme respectable. Mais la pensée de tuer quelqu'un était venue dans son esprit perverti, et il s'apprêtait à tuer avant de rester dîner tranquillement chez lui. Les assassins vont dîner après le crime. Il n'y a aucune raison pour qu'ils ne dînent pas, et beaucoup pour qu'ils le fassent. Il y a des hommes qui peuvent tuer et qui tuent, non pas un homme, mais deux ou trois, et puis s'en vont tranquillement à leurs affaires. D'autres ne seraient pas capables de tuer, même en cas de légitime défense. Ce sont ceux-là qui imaginent l'assassin tourmenté par les remords et craignant la loi, tandis qu'il est en train de dîner. L'homme aux grandes mains blanches avait tout aussi envie d'aller dîner que M. Wybrow, mais il avait quelque chose à faire avant. « M. Wybrow, vous entendez ses pas maintenant, mais vous ne vous retournez pas. »« Est-ce que vous n'entendez pas quelque chose vous dire ?»« Attention, prends garde !»« Comment ses pas n'appellent-ils pas pour vous ?»« Assassin, assassin !» Mais non, ce bruit ne vous dit rien. Et pourtant, à chaque pas, se rapprochent de vous ces grandes mains blanches qui déjà se préparent à vous faire mourir. Les mains horribles. Les mains qui sont aussi l'emblème de l'affection, de la bonté, de la confiance. Éloignez-vous donc, Monsieur Wybrow, éloignez-vous de cette porte. Allez-vous-en. Partez avec votre femme par le jardin, ou appelez au secours. Mais n'ouvrez pas cette porte. Non, Monsieur Wybrow, n'ouvrez pas. Monsieur Wybrow ouvrit la porte. L'assassiné de M. Wybrow et de sa femme fut découvert par le sergent du poste de police voisin qui passait par Caspar Street en allant à son travail, lorsqu'il remarqua la porte ouverte. Au premier coup d'œil, il vit à la lueur du réverbère un corps inerte sur le plancher du corridor. Aussitôt, il donna un coup de sifflet. Les policemen ne tardèrent pas à arriver. Il en prit un avec lui pour fouiller la maison et envoya les autres explorer les rues voisines. Mais pas plus dans la maison que dans les rues, l'assassin n'avait laissé de traces. Les voisins n'avaient rien vu ni rien entendu. L'un d'eux avait bien entendu M. Wybrow rentrer comme d'habitude, mais rien d'autre jusqu'au coup de sifflet. On n'avait vu personne entrer ni sortir, et le cou des victimes étranglées ne portait pas d'empreinte digitale. Le peu d'argent qui était dans la maison n'avait pas été touché, et il n'y avait pas trace de désordre ni même de lutte. M. Wybrow était considéré par ses voisins comme un homme aimable et paisible, aimant son foyer. Il ne pouvait pas avoir d'ennemis. Aussi la police ne découvrit-elle pas l'assassin ni le mobile du crime. Cette affaire causa une grande émotion à Londres. Deux personnes inoffensives étaient assassinées, ni par lucre, ni par vengeance, et l'assassin était en liberté. Il n'avait pas laissé de traces, et comme il n'avait pas de complice, il n'y avait pas de raison pour qu'il ne demeurât point introuvable. C'était pendant les vacances de Noël et un soir de brouillard, alors que Londres n'était plus qu'un monde de fantômes. Une petite fille endimanchée s'en allait de Logger Passage à St. Michael's à quelques réunions d'enfants. Elle ne devait jamais y arriver. À vrai dire, elle n'était pas morte avant 6h30, mais elle n'en valait pas mieux à partir du moment où elle eut quitté sa mère à sa porte. Un homme qui faisait les 100 pas dans la rue au bout du passage la vit sortir. À travers le brouillard, de grandes mains blanches s'étaient avancées vers elle. Un instant après, elle était morte. À 6h30, un coup de sifflet déchira la nuit, et ceux qui y répondirent trouvèrent le corps de la petite Nelly Urinoff, étranglée dans Meadow Street. Le sergent était arrivé le premier sur les lieux. Il envoya ses hommes fouiller les alentours. Il les commandait d'un ton acerbe. « Je vous ai vu, Maxon, au bout de la rue. Que faisiez-vous là ?» Maxon commença de s'expliquer sur la nécessité qu'il y avait de surveiller les gens dont l'allure était suspecte. Mais le sergent l'interrompit. « Au diable les suspects, c'est l'assassin que vous devez trouver. » Les mauvaises nouvelles vont vite. Les curieux affluèrent rapidement. À travers le brouillard, les visages exprimaient l'horreur et la haine en apprenant que le monstre inconnu venait de faire une nouvelle apparition et avait cette fois choisi un enfant pour victime. Et puis l'ambulance arriva avec des renforts de police qui fendirent la foule et le sergent, furieux, entendit murmurer de tous côtés « C'est arrivé sous leur nez !» L'enquête mit en lumière que quatre personnes du quartier, au-dessus de tout soupçon, étaient passées par là quelques secondes d'intervalle avant le crime et n'avaient rien vu ni entendu. Personne n'avait vu la petite fille ni morte ni vive. La police, cette fois-ci encore, ne devait rien trouver. Le quartier était en émoi. Si une pareille atrocité avait été commise dans ces rues familières, tout pouvait arriver. Chaque fois que les gens du quartier se rencontraient au marché, dans les magasins, dans la rue, c'était pour agiter ce sujet. Les femmes prirent l'habitude de barricader leurs fenêtres et leurs portes à la tombée du jour. Elles gardaient leurs enfants près d'elles et ne les perdaient pas de vue. Par le pouvoir de ses mains, un seul homme avait bouleversé une collectivité. Un mardi soir, à 9h32, un policeman était en service à Jarnigan Road et parlait à l'un de ses collègues qui s'appelait Peterson au bout de Cleming Street. Il avait vu Peterson arriver dans cette rue. Il aurait pu jurer qu'elle était déserte à ce moment-là. Il avait l'habitude, comme tous les policemen, d'observer constamment autour de lui. Il était certain que la rue était déserte. Il était passé devant lui à 9h33, l'avait salué et répondu négativement lorsqu'il avait demandé s'il avait vu quelque chose. Sa tournée n'allait pas au-delà de Cleming Street. Il fit demi-tour à 9h34 lorsqu'il entendit la voix enrouée du sergent. « Grégory, vous êtes là, vite ! Un autre, bon Dieu, c'est Peterson ! Étranglé, vite, appelez !» C'était le troisième meurtre de cette horrible série d'étranglements. Il devait y en avoir bientôt un quatrième et un cinquième, et tous devaient rester inexplicables et inexpliqués. Du moins pour la police et pour le public. Mais il y avait deux hommes qui connaissaient l'assassin. L'un était assassin lui-même et l'autre un jeune journaliste. Ce jeune homme n'était pas plus capable que les autres reporters zélés autour de cette affaire et qui espéraient trouver la solution, mais il était patient et avait suivi l'affaire de plus près. Les reporters se retrouvaient régulièrement au poste de police et partageaient le peu d'informations qu'on y pouvait trouver. Les policemen étaient aimables pour eux, sans plus. Le sergent discutait avec eux les détails de chaque crime, suggérant les explications possibles, rappelant les crimes passés avec lesquels ils offraient quelques similitudes. L'inspecteur aussi était très loquace sur ce thème, mais quand on dirigeait la conversation sur l'actualité, il se dérobait. Ce que les policemen savaient, ils le gardaient pour eux. Ils avaient à reconquérir l'estime et la confiance publique, et pour cela, il leur fallait trouver eux-mêmes l'assassin. Naturellement, Scotland Yard était sur le qui-vive. Mais au poste de police, ils espéraient avoir eux-mêmes l'honneur de découvrir la vérité, et bien que la collaboration de la presse ait pu leur être utile en d'autres circonstances, ils ne voulaient pas risquer de perdre la partie cette fois-ci, en dévoilant trop tôt leurs idées et leurs plans. Le jeune homme avait délaissé ses conférences sur la philosophie du crime pour explorer les rues de la ville. Il n'en tira que peu de choses. Il ne rencontra que l'indignation et n'entendit que des conjectures insensées sur l'identité de l'assassin, sur le mobile de ses crimes et le mystère de sa disparition. Depuis qu'un policeman avait été victime du monstre, les accusations contre la force publique avaient cessé, et l'inexplicable était maintenant revêtu d'un prestige de légende. L'homme épiait l'homme en pensant « ce peut être lui ». Ce pouvait être lui. Les soupçons se portèrent sur les étrangers. Il ne semblait pas aux Londoniens qu'un Anglais fût capable d'une telle cruauté et d'une telle brutalité à la fois. On recherchait le coupable parmi les Bohémiens et les Arabes, les Égyptiens et les Asiatiques. Ces Orientaux connaissaient toutes sortes de ruses et n'avaient ni religion ni rien qui puisse les retenir. Les marins qui avaient voyagé dans ces contrées en avaient rapporté des histoires de fakirs qui savaient se rendre invisibles. Et on racontait qu'ils connaissaient des drogues, qu'ils employaient dans des buts mystérieux. Peut-être était-ce possible pour ces gens-là, on ne sait jamais. Ils étaient tellement rusés, ils se faufilaient partout. Un Anglais ne saurait pas se défiler comme eux. Presque sûrement l'assassin se trouverait parmi eux. Sans doute était-il sorcier et précisément parce qu'il semblait y avoir quelque chose de magique dans ses crimes, on avait le sentiment que toutes les recherches étaient vaines. L'assassin avait un pouvoir mystérieux qui le rendait imprenable. La superstition, qui fausse si facilement la fragile raison des hommes, s'était emparée de l'opinion. Il pouvait faire tout ce qu'il voudrait, il ne serait jamais découvert. Et les gens continuaient de suivre leur chemin, acceptant avec résignation la fatalité. 5 jours après l'assassinat du policeman, au moment où tous les efforts de la police, publique et privée, se portaient sur l'identification du criminel et sa capture, il accomplit son 4e et son 5e meurtre. À 9 heures ce soir-là, le jeune reporter explorait les rues comme les autres soirs et flânait le long de Richard's Lane. Richard's Lane est une petite rue composée d'abord de magasins et puis de maisons d'habitation. Le jeune homme était dans ses dernières parties qui comportaient d'un côté de petites maisons ouvrières et de l'autre un mur derrière lequel s'élevait le talus d'une voie de chemin de fer. Le mur portait une ombre sinistre. Le journaliste disait à lui-même qu'il en avait assez de toute cette affaire, lorsque tout à coup, les ténèbres furent déchirées par un cri. « Au secours ! Au secours ! Il est là !» Avant qu'il n'ait le temps de réfléchir, la rue s'anima. Comme si la population invisible avait attendu cet appel, la porte de chaque maison s'ouvrit brusquement et de partout accoururent des ombres anxieuses. Presque aussitôt, retentit le coup de sifflet de la police qui leur indique la direction, et le troupeau d'ombres se mit à remonter la rue. Le journaliste les suivit. De toutes les rues environnantes, les gens affluèrent, les uns dérangés à la fin de leur dîner, les autres surpris en pantoufles et en bras de chemise, armés de tisonniers et d'autres objets usuels. Ça et là, au-dessus du flot mouvant des têtes, émergeaient les casques des policemen. Comme un seul homme, ils se dirigèrent vers une petite maison dont la porte était gardée par le sergent et 2 policemen. On entendait derrière des voix crier « Entrez, il faut le trouver, cerner la maison !» tandis que ceux qui étaient en avant criaient « En arrière, en arrière !» Maintenant, la foule était déchaînée. Il était là, à cet endroit précis. Sûrement, cette fois, il ne pourrait pas échapper. Tous les esprits étaient tendus vers la maison et les portes, les fenêtres, le toit, toutes les issues étaient gardées. Les pensées de chacun étaient tournées vers un seul homme, mais inconnu, et personne ne faisait attention à son voisin. Personne ne songeait à rechercher parmi la foule d'ombre qui encombrait la petite rue le monstre qui ne s'attardait jamais sur ses victimes. Ils oubliaient que leur nombre même favoriserait sa fuite. Ils ne voyaient que la maison, ils n'entendaient que le bruit des vitres et les ordres des policemen qui organisaient la chasse à l'homme. Ils ne trouvèrent pas l'assassin. Tout ce qu'ils surent, c'est qu'il y avait eu un assassinat. Ils ne firent qu'apercevoir l'ambulance. Leur fureur se retourna contre la police. Le journaliste s'arrangea pour se faufiler jusqu'à la porte de la maison et se faire faire le récit du meurtre par le policeman qui la gardait. Cette maison était celle d'un marin en retraite où il vivait avec sa femme et sa fille. Ils étaient en train de dîner quand, sans doute, une espèce de gaz asphyxiant les avait saisis tous les 3. La fille était étendue morte devant la cheminée avec un morceau de pain à la main. Le père était tombé à côté de sa chaise en laissant sur son assiette sa cuillère pleine de riz. La mère gisait sous la table avec une tasse de chocolat brisé et répandu. Mais au bout de 3 secondes, l'hypothèse du gaz avait dû être rejetée. Le cou des victimes portait des traces de strangulation. C'était encore lui. La police partageait momentanément les idées fatalistes du public. Il n'y avait pas d'espoir. C'était son 4e coup et cela faisait 7 morts. Il allait commettre un nouveau meurtre, et cela cette nuit même. Et puis il passerait à la postérité, comme un monstre mystérieux et introuvable, et reprendrait la vie ordinaire qu'il avait toujours menée, ne se souvenant guère de ce qu'il avait fait, sans connaître le moindre remords. Il y avait un moyen de mettre un terme à ses crimes, et il ne dut son salut qu'à une erreur de jugement de la part du journaliste. Aussitôt que ce dernier eut pris connaissance des faits, ce qui prit quelque temps, il passa 1/4 d'heure au téléphone à les rapporter à son journal, après quoi son excitation était un peu tombée. Il se sentit fatigué physiquement et moralement. Mais il avait encore à faire avant de rentrer. Le journal n'était pas terminé. Aussi se dirigea-t-il vers un café pour boire quelque chose et manger un sandwich. Quand il eut chassé de son esprit toute cette affaire, il se mit à examiner le café dans lequel il se trouvait. Il admirait le goût du patron d'après sa chaîne de montre et son air de supériorité. Il pensait que le patron d'un café bien dirigé avait une vie plus agréable qu'un journaliste. C'est alors qu'une idée jaillit dans son esprit. Il ne pensait pas à l'assassin, il pensait à son sandwich. Pour un sandwich fait dans un café, il était remarquable. Le pain était coupé en tranches minces. Il était beurré et le jambon n'était pas rance. C'était du jambon comme il faut. Ce qui lui fit penser à l'inventeur du sandwich, le comte de Sandwich, et puis à son ami George IV, et puis à la légende de ce George qui aurait bien voulu savoir comment la pomme entrait dans sa pelure. Il se leva pour demander un autre sandwich, et c'est à ce moment qu'il eut l'intuition de la vérité. S'il y avait du jambon dans son sandwich, il fallait que quelqu'un l'y ait mis. Si cette personne avait été assassinée, il fallait que quelqu'un les ait assassinés. Il n'y a pas encore d'aéroplane ni d'automobile de poche. Ce quelqu'un, pour s'échapper, s'était enfui ou bien était resté là, et donc... Il imaginait déjà la première page de son journal, si sa thèse était vérifiée, et si son directeur avait assez de courage pour porter un coup audacieux. Lorsqu'il fut rappelé à la réalité par le patron du café qui s'écriait « C'est l'heure, messieurs, on ferme !» Il se leva d'un bond et sortit dans le brouillard, vaguement éclairé par les réverbères et le passage des autobus. Il était sûr de tenir la vérité, mais même s'il était prouvé, il n'était pas sûr que son journal la lui laisserait imprimer. Elle avait un grave inconvénient. C'était la vérité, mais c'était une vérité difficile à dire. Elle ébranlait les fondations de tout ce que les lecteurs croyaient et de tout ce que les journaux les induisaient à croire. Ils pouvaient croire que de pauvres orientaux, vendeurs de tapis, fakirs d'occasion, avaient le pouvoir de se rendre invisibles, mais ils ne croiraient pas cela. On n'eut pas à leur demander de le croire, car la vérité ne fut jamais écrite. Notre journaliste, réconforté par sa collation et excité par sa découverte, pensa qu'il pouvait consacrer une demi-heure de plus à la preuve de sa découverte. C'est ainsi qu'il se mit à rechercher l'homme auquel il pensait, un homme aux cheveux blancs et aux grandes mains blanches, autrement dit, une physionomie familière qui n'aurait fait retourner personne. Il ne voulait pas dire ce qu'il pensait de cet homme sans preuve ni préavis. C'est pourquoi, sans avoir l'espoir d'être soutenu immédiatement par la force publique et pour cause, il allait se mettre à la merci de celui qui tenait tout un quartier sous la terreur. Mais il n'avait pas pensé à ce risque. Il était mu simplement par le désir de suivre une affaire jusqu'au bout. Il allait lentement dans Finger Street et se dirigeait vers Dever Market, où il espérait rencontrer cet homme, mais il n'eut pas besoin d'aller jusque-là. Au coin de Lotus Street, il le vit, ou du moins il vit un homme qui lui ressemblait. La rue était peu éclairée, et il ne distinguait pas bien l'homme, mais il pouvait voir de grandes mains blanches. Il le suivit un peu et marcha au même niveau et à l'endroit où le chemin de fer traverse la rue. Il put voir que c'était bien son homme. Il s'approcha de lui et engagea la conversation avec la phrase que tout le monde employait dans le quartier. « Quoi de neuf sur l'assassin, sergent ?» L'homme s'arrêta pour le regarder fixement et répondit « Ça m'étonnerait qu'on le trouve. On ne sait jamais. Justement, j'y ai pensé et j'ai une idée. Vraiment ?»« Oui, ça m'est venu tout d'un coup il y a un quart d'heure. Et je crois que nous étions tous aveugles. Ça devrait crever les yeux. » L'homme le regarda de nouveau. Son regard et son attitude exprimaient sa méfiance pour ce jeune homme qui avait l'air d'en savoir si long. « Si vous en êtes sûr, pourquoi ne pas nous faire profiter de votre découverte ?»« C'est ce que je m'en vais faire. » Ils étaient presque au bout de la petite rue, au coin de Dever Market, quand le journaliste se tourna carrément vers l'autre. Il lui mit la main sur le bras. « Oui, ça me paraît tout à fait simple maintenant. Mais il y a encore une chose que je ne comprends pas et qu'il faut que j'éclaircisse. C'est le mobile du crime. » « Maintenant, d'homme à homme, dites-moi, sergent, pourquoi vous avez tué ces gens inoffensifs ?» Le sergent s'arrêta et le journaliste s'arrêta aussi. Le ciel qui reflétait la lumière de la ville éclairait juste assez la rue sombre pour lui permettre de distinguer les traits du sergent. Le visage de ce dernier était tourné vers lui avec un sourire si courtois que le journaliste en fut décontenancé. Il sourit un instant et dit « Eh bien, pour vous dire la vérité, monsieur le journaliste, je n'en sais vraiment rien. Au fait, je me le suis demandé à moi-même, mais moi aussi j'ai une idée. Nous sommes tous d'accord pour penser qu'il n'est pas en notre pouvoir de dominer le travail de notre cerveau, n'est-ce pas? Les idées nous viennent sans qu'on le leur ait demandé. Mais nous nous croyons tous capables de contrôler notre volonté dans nos gestes. Et pourquoi? Nos cerveaux nous viennent de Dieu sait où, de gens morts des siècles avant notre naissance. Notre visage, notre crâne, nos jambes ne sont pas complètement à nous non plus. Nous ne les avons pas faits. Ils nous sont donnés comme ça. Et pourquoi les idées ne nous viendront-elles pas dans le corps, comme elles nous viennent à l'esprit? Pourquoi les idées ne pourraient-elles pas nous venir dans ces membres, qui ne nous appartiennent pas, tout d'un coup? C'est ainsi que les idées me viennent dans... » Il tendit ses grandes mains gantées de blanc, Il les referma si rapidement sur la gorge du journaliste qu'il ne les revit jamais. « Dans mes mains. » Ainsi s'achève « Les mains homicides » par Thomas Bjork.